Et bonsoir à tous, bienvenue dans Paris Central. On se retrouve ce soir en nombre, comme vous le voyez justement. On reçoit tout d'abord le jeune Titi de Paris Central en lice pour le Titi du mois, Soura qui est avec nous ce soir. On a également avec nous certaines têtes que vous commencez à connaître comme Hergé et Milan qui n'en sont pas leur premier débrief. Et pour finir, l'un des loxés les plus stylés de Paris Central, et oui, malheureusement, il n'est pas tout seul, mais vous l'avez déjà vu cet après-midi, le retour également de Gâteau pour le débrief de ce soir. Pour commencer, comment ça va, les gars ?
Très bien, toi, à tous.
Et bonsoir à tous, à tous ceux qui sont dans le chat aussi. On se retrouve pour le débrief de ce match passionnant entre le PSG et Monaco, justement, un match... Avant la Real Sociedad, je n'aborde pas ce sujet par hasard, justement, c'est le thème, justement, le premier thème de notre live. Justement, un PSG avec beaucoup de remplaçants en vue de la Real Sociedad, que penser justement de ces remplaçants qui ont commencé titulaires ? Et pour commencer, justement, on fera par ordre des caméras. Soura, qu'est-ce que tu as pensé de ces remplaçants titulaires ce soir ?
Pas forcément au niveau pour la plupart sur ce 11 qui a été proposé par Luis Enrique, un petit peu déçu de ce que j'ai vu dans l'ensemble sur le domaine et sur le plan technique. À part Ugarte qui est pour moi, on va dire, un petit peu sorti du lot où il a réussi quand même à couvrir un petit peu les espaces et les errements défensifs et même au milieu de terrain de la part de ses coéquipiers. Là, pour le coup, il n'y a pas forcément de choses à lui reprocher. Moukele a pris l'eau et là, il ne va pas donner raison à Luis Enrique de le titulariser ce soir dans ce match-là. Gonçalo Ramos, je ne vais pas lui en vouloir parce qu'il n'a pas été mis dans de bonnes dispositions parce qu'un certain dictateur n'est pas capable de faire des centres pour mettre dans de bonnes conditions le Portugais. Et malheureusement, Marco Asensio, encore une fois, comme son début de saison, quand on pense qu'il pourrait faire quelque chose de très intéressant, il se blesse et on ne sait pas quelle sera la durée. Je pense vraiment que la première blessure d'Asensio a vraiment coupé l'herbe sur le pied d'un potentiel bon élan pour l'Espagnol. Mais dans l'ensemble, il n'y a que quelques joueurs qui sortent du lot. Sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment, vraiment moyen et c'est très inquiétant pour le déplacement à la Hanoïde.
Hergé.
Je suis en partie d'accord, même si je trouve que Ugarte, fidèle à lui-même, toujours très intéressant dans l'agressivité et dans le jeu sans ballon, dans le jeu long aussi, avec ballon. Par contre, quand il est sous pression et qu'il n'a qu'un ou deux pas pour relancer, c'est compliqué, comme beaucoup de milieux avant lui, comme Gay, comme Herrera, comme 50 autres. Beraldo, techniquement toujours très intéressant. Certains duels, il a gagné et c'était pas donné quand il y avait tellement il y avait de vagues en face. Et sa complicité, je pense, avec Hernandez est intéressante. Donc je pense qu'il faut continuer ça et leur donner du rythme et pour avoir des automatismes. Après, Asensio, moi j'ai toujours un problème avec lui dans l'attitude parce que voilà, il trottine, il joue à la baballe, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'intention d'aller vraiment vers l'avant et de faire mal. Donc voilà, il se blesse. Est-ce qu'il nous a vraiment manqué ? Non, je ne pense pas. Et puis Soler, je pense que là, Enrique veut mettre en valeur le travail à l'entraînement. Je pense que sa titularisation, c'est seulement parce qu'il a fait une bonne semaine, parce que derrière, tu as un Fabien Ruiz aussi, qui n'est pas rentré d'ailleurs. Donc je pense que c'est vraiment un message pour l'ensemble du groupe que si Soler il peut être titulaire dans un match face à Monaco à l'extérieur, c'est que tout le monde peut l'être. Donc travaillez, mettez les chances de votre côté et vous allez titulaire, vous allez jouer quoi. Donc juste pour finir, bon match, mais bonne première période plutôt. Mais après il a sombré quoi.
Moi, je vais continuer avec ce que je disais lors des derniers matchs. Je trouve qu'il y a des phases de jeu intéressantes collectivement. Franchement, il y a des bonnes petites phases de jeu où justement on joue à une touche de balle et je trouve ça plutôt intéressant. Après, sur l'ensemble du match, je sens le Paris Saint-Germain compliqué. Si on m'avait dit que Paris jouait en rouge ce soir, j'aurais pu le croire. Mais franchement, ouais, j'ai l'impression que défensivement, on n'y arrive pas. Merci Donnarumma sur ce match. Hein. Sans lui, je pense qu'on s'en prend 3 ou 4, même peut-être plus. Mais après voilà, il y a des joueurs intéressants voilà, comme l'a dit mes compères Ugarte, Beraldo, c'est des bons petits prospects ce soir. Franchement, ils ont montré des choses intéressantes. Après franchement ouais, voilà, pour moi il y a un joueur collectivement qui ne peut pas être dans cette équipe. Pour moi, c'est Kylian Mbappé. Moi, sur la première mi-temps, je le trouve horrible, il ralentit le jeu, il fait pas les passes, il joue tout seul. Franchement non, pour moi en fait, je pense que ce soir, si on joue première mi-temps sans Kylian Mbappé, peut-être qu'on aurait pu en mettre un. Et peut-être que ça aurait peut-être été mieux. Mais franchement, non. L'équipe, collectivement, il y a un problème. Mais je trouve que si on prend juste en compte certaines phases de jeu, bah, même si on ne peut pas le faire tout le temps, mais il y a des choses intéressantes venant de Luis Enrique.
Gâteau.
Ouais, moi, j'ai pas été convaincu que ce soit la première ou la deuxième mi-temps. Dès lorsqu'on prend énormément d'occasions pour la mi-temps, et si Donnarumma est absent, bah, on risque d'avoir de très très gros problèmes. Franchement, je suis. Après, c'est les matchs d'avoir Ligue des Champions, c'est toujours un peu comme ça. T'as un peu de difficultés ou de relâchement ou de turnover. Je pense que vous l'avez dit collectivement, on a eu des problèmes à déployer quelque chose. On a plus subi que déployer un jeu. Même s'il y a eu des occasions aussi d'un zéro de notre part, comme de la part des Monégasques. Mais la première mi-temps ne m'a pas convaincu, la deuxième non plus. Après, il y a peut-être aussi la fatigue, l'esprit à la Champions League. Mais il s'avère maintenant que les déplacements à Louis II sont de plus en plus compliqués dès lors que ça fait 4 ans qu'on ne gagne pas. Et surtout, ça fait en 4 ans, on a pris un point là-bas. Un point, et ça commence à être une maladie. Voilà, des déplacements à cocher, évidemment, tu as toujours Louis II, tu as toujours le Vélodrome, le Roazhon Park, ouais. Mais Monaco, ce Monaco-là est bien prenable et ça fait un moment qu'on ne gagne pas là-bas. Donc, je ne suis pas vraiment pas satisfait et on n'a pas déployé grand-chose malgré qu'il y ait eu Solaire sur la pelouse ou Asensio, c'est des gars qui ne sont pas forcément amenés titulaires tout le temps.
Pour clôturer le sujet, je dirais tout simplement que y a certains des titulaires remplaçants entre guillemets qui ont marqué des points. Je pense notamment à Beraldo, qui a montré que techniquement, il avait le niveau que demandait Luis Enrique à ce poste. Nuno Mendes aussi qui fait une entrée intéressante, bon, même si pas titulaire, marque des points et montre que son duo avec Barcola risque d'être très intéressant dans les semaines, mois à venir, le temps qu'il récupère son meilleur niveau. Très bon match de Ugarte en ce qui me concerne. Je trouve que c'est un peu le bon moment aussi pour lui de revenir un peu à niveau. Il a eu beaucoup de mal pendant une grande partie de la saison. J'ai eu l'impression qu'il vivait un peu ce que Vitinha avait vécu la saison dernière avec un départ éclair et beaucoup de difficultés par la suite. En tout cas, Ugarte ce soir fait la prestation qu'il faut. Il fait des bons ballons, il fait des bons renversements, très agressif à la perte de balle. Vraiment, il fait son taf, rien à dire. J'ai bien aimé également le match de Didio Donnarumma, mais lui, ce n'est pas un remplaçant. Mais ce soir, il faut dire ce qu'il est, s'il n'est pas là, ce n'est pas sûr qu'on reparte avec un point. Donc, je pense également aux prestations de Didio Donnarumma contre Monaco tout court. Hein. L'année dernière, on avait pris le bouillon, on avait pris 3 buts contre Monaco, et pourtant, sans lui, on en prenait facile 7. C'est quand même quelque chose de positif, on va dire, à souligner. Par contre, pour les côtés négatifs, j'ai beaucoup eu de mal avec Carlos Soler à partir du moment où Asensio est sorti. Quand Asensio était sur le terrain, j'ai bien aimé leur combinaison à deux, qui était plutôt intéressante, on a une touche de balle. Mais à partir du moment où Asensio est sorti, lui qui allait beaucoup dans le cœur du jeu pour justement dédoubler beaucoup avec Soler, Soler a totalement disparu et c'est vraiment dommage. Vitinha, je dirais la première mi-temps très compliquée, même s'il a beaucoup relevé son niveau de jeu en deuxième mi-temps. La première mi-temps est du même niveau que celle de Soler, c'est-à-dire totalement invisible. Je dirais également Kanguini, qui lui était censé être frais quand il est rentré, mais a finalement rempli le même rôle que Carlos Soler une fois que Marco Asensio était sorti. Ah, et concernant Gonzalo Ramos. Comment ?
J'ai vu que tu avais figé.
Ah non, j'ai pas figé, t'inquiète. Et Gonzalo Ramos boycotté, donc j'attends d'autres matchs pour être un peu plus définitif le concernant. Mais je vois que RG avait levé les doigts, et comme je suis assez nostalgique de l'école et qu'il a levé le doigt, je vais lui laisser la parole. Vas-y, RG.
Déjà sur les vagues, attends, je vais revenir d'abord sur les prestations des milieux. En vrai, Vitinha, encore une fois, sur Twitter, j'ai vu beaucoup de gens le critiquer et l'insulter. Encore une fois, je veux bien que vous me dites combien d'appels vous avez eu de la part des trois attaquants, que ce soit dans le dos de la défense ou même pour combiner. C'est très compliqué, notamment du coup.
Ah. Eh bien, écoute, on aura l'analyse de RG à ce sujet un tout petit peu plus tard. Mais du coup, je propose qu'on embraye sur le deuxième sujet et RG aura l'occasion de revenir sur ça peut-être.
Oula.
Il y a des petits problèmes de connexion.
C'est
qui est Mbappé, il a...
Ouais, c'est le dictateur de Saint-Germain-en-Laye.
Mbappé nous a coupé le live, les gars. On revient dans... quand il voudra qu'on parle.
Gâteau. Oula. Ah ouais. Et toi, t'es là, t'es avec nous. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on va pouvoir enchaîner. Mais j'ai complètement zappé, c'était quoi les sujets qu'il fallait faire. Mais c'est pas grave, de toute façon, on va pouvoir continuer tranquillement par rapport à l'émission et essayer de continuer de parler du Paris Saint-Germain. Encore une fois, un match qui nous a assez déçus. C'est bon.
Gros bug.
C'est le dictateur, c'est le dictateur.
Exactement, on a dit certainement qu'il ne pouvait pas être prononcé. Ouais. Je pense qu'on a eu un droit.
On parle de Mbappé.
Alors, du coup, je sais plus. Ah, tu as parlé du mauvais sujet qu'on allait aborder en fin de live, mais c'est pas grave. J'embrasse sur le deuxième sujet et on parlera de ce sujet plus tard. En deuxième sujet, j'allais justement me demander, après avoir un peu mal parlé, on va dire poliment, des joueurs qui ont failli à leur devoir parmi les remplaçants titulaires, entre gros guillemets, j'allais parler justement dans ce match aussi, ce qui m'a marqué, c'est les entrées de certains joueurs qui ont fait quand même beaucoup de bien au PSG. Je pense aux entrées de Nuno Mendes, aux entrées de Ousmane Dembélé, aux entrées de Bradley Barcola. Et j'ai eu l'impression que justement, bah, ces joueurs ont fait quand même pas mal de bien au PSG en seconde mi-temps. Vous en avez pensé quoi, les gars?
Ouais, bah du coup je vais commencer. Si on prend que l'entrée de Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Bradley Barcola, bon bah encore une fois ils apportaient vraiment quelque chose dans cette équipe. Dembélé, en fait je pense que aussi il y a eu des problèmes d'appui sur ce terrain. Je sais pas pourquoi j'ai vu beaucoup de joueurs glisser, mais franchement Barcola, Dembélé c'est quelque chose. Et Nuno Mendes, contrairement à la dernière fois, où on pouvait pas grand-chose en tirer lors du dernier match, lors de sa dernière entrée, c'est quand même sa première entrée, ça fait quand même 9 mois, 10 mois qu'il joue plus, tu pouvais pas lui en demander grand-chose. Là, tu le sens, il rentre, tu as l'impression de revoir l'ancien Nuno Mendes, tu sens tout de suite, il a lâché deux trois petits dribbles, c'était très intéressant et ça fait du bien de le revoir comme ça. Donc franchement, non, c'est des très bons joueurs qui peuvent déstabiliser l'équipe adverse. Ils ont fait de très belles rentrées. Randall en dessous. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait 2-3 appels de Randall intéressantes. Maintenant, le problème, c'est que si tu ne les mets pas au fond, ça ne sert à rien, je trouve. Surtout que il y avait surtout une occasion où je le vois partir dans le dos et il se fait tacler. Et il n'y a pas faute, mais c'était intéressant. Après, Lee Kang-in, je le trouve intéressant à Majorque et j'ai vraiment du mal avec lui cette saison. Je trouve que ça a été très bon au début. Et là, en fait, j'ai pas l'impression de revoir Lee Kang-in, quoi. J'ai vraiment l'impression de revoir un Soler encore une fois, des joueurs qui étaient très bons dans le passé en Espagne et qui opéraient Saint-Germain techniquement.
Peut-être
qu'il n'a pas le niveau, effectivement.
Peut-être qu'il n'a pas le niveau, finalement. Fabien Ruiz, c'était pareil. Hein. Carlos Soler, c'était pareil. Hein. C'est des joueurs en fait, qui n'ont pas le niveau du Paris Saint-Germain, tout simplement.
Ou alors, c'est peut-être que ça fait. On dit ça pour 90 joueurs par saison, mais peut-être qu'il y a d'autres choses aussi qui font. Genre, il faut laisser un
temps. Oui, il faut laisser du temps après.
Un peu de meilleures conditions. Comme tu l'as dit au début, c'était intéressant. Il marque. Je crois que c'est face à Dortmund, il rate des occasions, mais il est intéressant quand même. Vitinha, sa première partie de saison l'année dernière, elle est très bonne. C'est pas tout noir ou tout blanc. En fait, si là il y a un tweet de ActuFoot qui est sorti il y a quelques jours sur Luka Modric, le traitement qu'il a eu de la part des supporters lors de sa première saison, il a été détesté et pourtant il a été défendu et le coach lui a donné de la confiance. Je dis pas que ni Lee Kang-in ni Vitinha sont Modric, mais si même Modric ont été des joueurs critiqués, alors comment peuvent être traités différemment Vitinha et Lee Kang-in par exemple?
Non, ça c'est sûr, mais après, Lee Kang-in, on le laisse le temps, mais si on parle juste sur ce match-là et sur les derniers matchs, on ne peut pas dire qu'il fait de très bons matchs, mis à part que oui, effectivement, il faut lui laisser du temps. Je suis l'un des partisans des personnes qui disent qu'il faut laisser du temps aux joueurs, notamment sur Vitinha, qui moi je trouve ultra intéressant. Mais après, ouais, t'as raison. Mais sur ces derniers matchs, Lee Kang-in, même s'il revient de la Coupe d'Asie, voilà, je le trouve un peu en dessous de ce qu'il pouvait faire à Majorque.
Alors justement, maintenant, je vais demander à Soura, qu'est-ce que t'as pensé, toi, des entrants dans la deuxième mi-temps, justement?
Comme d'habitude, hein, de toute façon, quand on remanie l'effectif et dès qu'il y a des entrées qui peuvent apporter de la percussion et qui arrivent à faire pas mal d'appels dans la profondeur et qui, notamment, en un contre un, sauf pour Barcola, là, il y a quand même une exception à la règle, ils arrivent quand même à pouvoir mettre en difficulté le bloc adverse et pouvoir créer des situations qui vont permettre au Paris Saint-Germain de s'offrir des occasions de but. Après, il y a quand même quelques différences sur le côté droit que sur le côté gauche. Ousmane Dembélé, dans ce championnat de France, il est clairement au-dessus. Il y a 2, 3 ou 4 classes d'écart lorsqu'il touche le ballon et lorsqu'il est face à face avec son vis-à-vis. Néanmoins, un Wilfried Tsingo, il est un petit peu sur le même... À l'inverse d'Hakimi, Wilfried Tsingo, lui, il continue sur la même base qu'il faisait lorsqu'il était à la CAN avec la Côte d'Ivoire. Défensivement, il tient la baraque et il arrive nettement bien à mettre en difficulté Bradley Barcola. Il s'est même permis de mettre une sombrero. Donc, franchement, très, très gros match de sa part. Et Nuno Mendes, petit à petit, il essaye de prendre un petit peu ses marques. Il est un peu plus débridé. On essaye de voir un Nuno Mendes qui arrive à prendre de plus en plus de rythme. Ça, c'est important pour la suite de la saison parce qu'on va avoir besoin d'un joueur comme lui, même si je pense qu'il faut bien entendu prendre son temps avec. Mais encore une fois, on voit les joueurs qui font des différences au sein du Paris Saint-Germain et on voit que Ousmane Dembélé est un joueur indispensable à cette équipe.
Berger.
Bah en fait, je pense que en fait, déjà tactiquement, je vois un truc un peu bizarre sur le côté maintenant. Depuis quelques matchs, Enrique, il fait ça. C'est qu'il met deux joueurs de même profil, enfin, deux joueurs qui vont coller la ligne ou deux joueurs qui vont rentrer à l'intérieur en même temps. Il fait jamais, il alterne jamais. Je trouve ça un peu bizarre. Là, c'est arrivé sur la fin de match avec Nuno Mendes et Barcola, bah, qui, eux, qui vont coller la ligne, quoi. Et du coup, il y a un grand intervalle dans l'axe qui est un peu libre. À droite, en début de match, bah, c'était Hakimi et Asensio qui rentrent dans l'axe. Donc en fait, c'est quelque chose qui est bizarre parce que l'idée de base, c'est de faire rentrer un latéral pour que son l'ailier, notamment Dembélé, soit en l'un contre un avec le défenseur pour que l'ailier ne suive pas. Et sauf que là, il n'y a plus cette idée. Donc je trouve que c'est un peu bizarre. Donc j'ai un peu du mal à suivre. Donc je pense que c'est un peu déroutant aussi pour un peu tous les joueurs, notamment pour les déplacements, etc. Donc moi, je me demande, ça va être quoi la suite, en fait.
Gâteau.
Ouais, la rentrée, bon, certains ont essayé. Hein. Physiquement, c'était pas évident de rentrer dans le match. La pelouse n'était pas terrible, même si c'était pour les deux, les équipes. Il y a eu des essais. Il y a eu de la volonté, et des occasions ratées, mais il y a eu de la volonté. On a vu la différence. Quand Kylian Mbappé est sorti, collectivement, on s'en sortait quand même un peu mieux. En tout cas, on subissait moins d'occasions parce que tout le monde était amené à faire l'effort défensif pour contrer justement les offensives avec Akibouche, avec Ben Yedder, Golovin ou Folarin Balogun. Et même Minamino, qui a moins fait mal en deuxième mi-temps qu'en première, parce que en première mi-temps, il n'y avait pas toutes ces compensations pour aider aussi Hakimi. Hakimi, c'est le meilleur contre-attaquant du monde à son poste, selon moi, mais ce n'est pas le meilleur défenseur. C'est pas le meilleur défenseur droit, il a certaines limites. Donc là, on a vu qu'il était un peu plus aidé. Voilà. Maintenant, aussi la sortie de Gonzalo Ramos, lui, il pouvait pas grand chose. Donc moi, il était quasiment invisible, un peu neutre. Maintenant, j'estime que ces joueurs-là, ils aussi, comme j'ai dit tout à l'heure dans le live de tout à l'heure, il y a l'âge des joueurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Et en plus, l'âge dans le club. Il y a énormément de personnes, c'est leur première année dans le club. Donc, ils n'ont même pas encore un an. Donc, il faut être patient, certes. Il y a des personnes, je pense, avec qui je ne serais pas forcément patient. S'il y a une offre cet été pour Colomani, j'y réfléchis quand même. Parce que je pense que le gap est assez difficile pour lui. Même si c'est un profil qui est polyvalent. Les contrôles ratés, toutes ces choses-là, ça se travaille, certes. Mais j'ai l'impression que c'est difficile pour lui. Le step est trop haut. Après. C'est des matchs aussi difficiles. Monaco, c'est reste une bonne équipe en Ligue 1, même si je suis pas satisfait ce soir.
Alors bon, de mon côté, je vais parler des joueurs qui sont entrés en deuxième mi-temps. Je vais faire cas par cas. Kanguini, je dirais, beaucoup de mal, est assez étonnant dans le sens où il rentre, il est frais. Dans un moment où justement le rythme avait été assez élevé, tu pouvais profiter de la fatigue des Monégasques pour plus te démarquer. Tu avais en plus Ousmane Dembélé et Hakimi à côté de toi pour te filer un coup de main, donc tu avais quand même de quoi faire. Ousmane Dembélé, je dirais, à l'image de ce qu'il fait, alors j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui disait qu'il a été frustrant parce qu'il apporte beaucoup, il dynamite, mais malheureusement il ne stade pas, et je peux entendre, hein, c'est vrai que si Ousmane Dembélé a un défaut, ça reste la finition, et il faut être honnête à ce sujet. En revanche, il reste un dynamiteur hors pair, un joueur qui provoque un nombre d'occasions incroyables par ses passes et par ses dribbles, mais bon. Bonne entrée en ce qui me concerne, même si j'aurais aimé le voir un peu plus longtemps. Bradley Barcola qui fait quand même une entrée en demi-teinte dans le sens où il y a eu du bon comme il y a eu du mauvais. On voit notamment son duel avec Singo qui a été un peu compliqué. J'ai un peu du mal, je ne sais pas exactement comment le prononcer. J'ai du mal à l'écorcher. Mais qui a eu un bon face-à-face.
Deuxième fois.
Ok, bon, ça va, je ne suis pas le seul alors. Bon, je me suis dit.
Et Kylian, c'était quoi sa question ? Qu'on enchaîne tranquillement comme ça. Quelle était la question de Tonton comme ça on enchaîne?
Là il parlait des rentrées.
Attends,
Kylian.
Il parlait justement des rentrées.
Ouais, alors, c'est bon, on t'entend.
J'en étais où justement? Bon, ça s'est stoppé.
Oh, le... Tu
On parlait
parlais
de
de la fin de ton propos. Ouais.
Berardo, de Barcola en demi-teinte avec le duel
Ouais,
face
j'avais
à
parlé
Nadal.
de Barcola. Ouais, non, je
Pff,
disais
le live
justement.
catastrophique.
Ouais, non, mais vraiment, ma connexion internet, je ne comprends pas. Oui, je disais que Barcola avait été un peu en demi-teinte dans le sens où, bah, bien sûr, des percées intéressantes, des dribbles intéressants, comme à chaque fois, mais malheureusement, beaucoup de duels perdus face à Sengo, qui fait aussi un très bon match. Et désolé d'écorcher son nom, je ne sais pas trop comment prononcer le nom du joueur ivoirien. J'en étais ensuite à Randall, qui, lui, à l'inverse, énormément de difficultés ce soir. N'a ni pesé comme ailier, n'a ni pesé comme neuf. Si je devrais tout de même trouver des qualités à la rentrée de Randal ce soir, bah, c'est son jeu sans ballon, toujours l'envie d'aller gratter des ballons, de chercher bah, finalement des qualités qui ressemblent plus à celles d'un milieu de terrain que celles d'un attaquant, et c'est assez dommage. Finalement, le seul que je n'ai pas fait, attends, Nuno Mendes, si c'est le seul que je n'ai pas fait parmi les entrants. J'ai bien aimé Nuno Mendes, aussi bien défensivement qu'offensivement. Un tout petit peu timide au tout début de son entrée, et c'est normal, le temps de reprendre un petit peu des sensations. Il n'a pas joué depuis longtemps. Mais finalement, une entrée que j'ai trouvée très convaincante de la part de Nuno Mendes. Il montre justement que tu peux jouer avec et Nuno Mendes et Hakimi en même temps sur le terrain. C'est pas interdit finalement, et ça te permet même de laisser Barcola beaucoup moins seul sur son côté gauche, ce qui lui permet d'être quand même un peu plus dangereux, surtout que Vitinha peut se plonger dans cette zone et permettre encore plus de solutions. Donc en soi, je pense qu'à terme, la meilleure solution serait de mettre, pour le moment, dans cette saison, Hernandez associé à Marquinhos dans l'axe, avec justement Hakimi et Nuno Mendes en latéraux, une fois que Nuno Mendes sera revenu pour de bon. Et je pense que j'ai fait le tour justement des fameux joueurs qui sont rentrés. Et maintenant, ça nous permet de rentrer dans la catégorie que tout le monde préfère, aussi bien dans le chat que parmi nos personnes qui sont présentes ce soir. Et je pose cette question de manière un peu générale, justement. Les gars, c'est qui ce soir vos top et flop?
Bah, déjà, il y en a un qui a écrit un article.
Oh,
Bah,
il a raison en soi.
top Donnarumma. Bah, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain pour moi. Le meilleur gardien de Ligue 1. On va arrêter les comparaisons avec Lucas Chevalier ou Brice Samba. Il ne boxe pas dans la même catégorie. Il y a plusieurs classes d'écart entre Donnarumma et les autres gardiens. C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain pour moi cette saison. Il est monstrueux. Voilà. Comme quoi, la pignouf autour du jeu au pied, ça fonctionne pas pour tout le monde. Et moi, j'aime bien ce genre de gardiens qui sont étincelants sur leur ligne. Donc, pour le coup, ça fonctionne plutôt bien avec lui. Wilfried Tsingo a été monstrueux sur son côté droit et il a très bien tenu la baraque sur le rôle défensif. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour lui et pour Monaco. Ça pourrait leur faire du bien. Et en autre top, en autre top, allez, je vais mettre Ugarte parce qu'il a quand même fait son match aujourd'hui. Et on va récompenser ce match-là et cette bonne performance de la part de monsieur. Monsieur Manuel Ugarte, et après, bah, je reviendrai pour les flops ou on les fait direct?
Tu peux les enchaîner à la suite, comme d'habitude.
Bah, flop, bien entendu, comme pour la deuxième semaine de suite, le dictateur de Saint-Germain-en-Laye, parce que sinon, c'est pas marrant. En autre flop, Monsieur Achraf Hakimi, parce qu'il faut bien qu'il y ait un valet qui suive son dictateur, sinon, c'est pas marrant non plus. En autre flop, je vais mettre Monsieur. Ah, c'est pas vrai.
Tu peux en avoir que deux, hein, t'es pas obligé d'en mettre trois.
Non, je vais mettre Kolo Muani encore une fois. Il a pas fait une bonne rentrée. Il n'a pas forcément été au niveau pour cette rentrée. Et malheureusement, la confiance n'est pas encore acquise avec lui. Donc, ouais, je vais le mettre en flop aussi.
Je vous trouve dur avec Hakimi quand même sur ce match.
Non, non,
Non. Ah
catastrophique.
non, non,
Ah
non,
non,
il
non,
fait un
non,
match
non. Mais
désastreux, vraiment, mais
c'est à Milan de parler.
Mis à
C'est à
part,
Milan
enfin,
de
si
parler.
je peux parler un peu d'Hakimi, mis à part des fois où il a joué trop à Mbappé, je trouvais que quand Mbappé est sorti, je trouvais quand même des bonnes choses à dire sur Hakimi. Bon, je le mettrai pas en top quand même. Bon, je vais du coup dire mes tops. Je vais commencer pour moi par le joueur qui m'a le plus impressionné dans ce match. Pour moi, c'est Ugarte. Franchement, le terrain, il m'a vraiment montré de belles choses, je trouve. Franchement, Ugarte, c'est pour moi quand il est en forme, c'est du top, quoi. Et tu sentais qu'il avait le retour de cette grinta qu'il avait au début de la saison. Il avait envie, il avait faim de ballon. Moi, franchement, Ugarte, je me dis que s'il continue comme ça et qu'il continue à avoir cette grinta, bah, faut vraiment l'installer. Le problème, c'est que bah, c'est trop en montée-descente. Mais pour moi, Ugarte, quand il est au top, au milieu de terrain, milieu défensif, il n'y a personne qui. Je pense qu'il n'y a personne qui peut passer devant. Après, bon, bah, Donnarumma, franchement, comme je l'ai dit au début, franchement, s'il n'est pas là ce soir, on s'en prend 3 ou 4. Des arrêts fabuleux. Je ne comprends même pas pourquoi il y a des rumeurs de départ le concernant. Et comme quoi, on veut aller chercher Kobel ou. Alors, même si c'est que des rumeurs, hein, mais pour moi, Donnarumma, tu dois
Ouais, ça
l'installer.
va.
25 ans. Le gars, niveau de la mentalité, il est top. Quand tu le regardes au Parc des Princes, il se retourne toujours vers les supporters. Même juste, tu parles de la mentalité. Alors, sur le terrain, pour moi, cette saison, je ne dois pas faire un mauvais match. Hein. Pour l'instant, il y a très peu. Je n'ai pas de souvenir de Donnarumma mauvais match. Et pour moi, c'est un des figures majeures du Paris Saint-Germain dans les futures années s'il continue comme ça. Après, en troisième top. J'aimerais encore une fois mettre à l'avant Beraldo. Je trouve que dans cette défense centrale, si Moukile n'a pas été, pour moi, n'a pas été convaincant, Beraldo, techniquement et défensivement, a été très bon. Il avait envie aussi. Et tu le sens que défensivement, voilà, quand tu le mets dans cette défense centrale, il a beaucoup plus d'impact défensivement et moins de choses à faire offensivement. Donc je l'ai trouvé vraiment top. Moi, Beraldo, je pense que vraiment, si tu continues à lui donner de la confiance comme ça et qu'il continue comme ça, avec un peu de travail, vraiment, il peut devenir un très bon défenseur central. Après, au niveau des flops, bon, il y en a... pour moi, le plus gros flop, c'est Kylian Mbappé. Hein. Franchement, Kylian Mbappé, encore une fois, je ne comprends même pas comment tu peux devenir comme ça. Même courir, la chose qu'il faisait le mieux avant, il ne sait plus le faire, j'ai l'impression. Ou en tout cas, il ne veut plus le faire. Il y a un moment où il se retrouve, tu avais deux joueurs devant lui, une balle en profondeur, il court deux secondes et après il s'arrête. Mais Kylian, à l'époque, tu courais un marathon contre l'Argentine et tu décrochais un pénalty. Va aller chercher ces ballons. Vraiment, va aller chercher ces ballons. Je ne comprends même pas pourquoi Kylian Mbappé ne fait plus ce genre de choses. Même si tu as la tête ailleurs, mon gars, même si c'est ouais, je préfère la Ligue des Champions, bah, avant de jouer à la Ligue des Champions, tu as la Ligue 1. T'as encore, même si tu as marqué beaucoup de buts cette saison, tu enlèves ses buts. Alors, encore une fois, je le redis, c'est facile de dire ça, mais pour moi, sur le terrain, il a donné aucune envie. Pour moi, si collectivement, c'est le pire joueur, vraiment le pire joueur du Paris Saint-Germain cette saison. Après, j'aimerais mettre en flop aussi les appuis de nos joueurs. Franchement, j'ai vu beaucoup de joueurs tomber. J'ai pas compris Kolo Muani, Mbappé, des joueurs glissés. Bon, après, c'est un flop un peu bizarre, mais voilà, je pense que ça joue aussi l'état de la pelouse. Et après, franchement, ouais, Kolo Muani, c'est compliqué hein, cette saison. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne retrouve pas ce joueur que je voyais à Francfort, que j'ai vu faire la différence. Pour moi, c'est un des joueurs qui avait fait la différence lors de la finale en 2022 contre l'Argentine. Il est où Enfin, il est où ce Kolo Muani là Enfin, je suis désolé, c'est compliqué. Hein.
Bah. En vrai, je vous rejoins dans les tops, évidemment, Donnarumma, mais parce que tout le temps, oui, Donnarumma, il n'est pas assez bon au pied. Ouais, mais Donnarumma, ouais, bon, déjà, Donnarumma, est-ce qu'il a pu progresser au pied pendant sa carrière au Milan? Non, jamais, parce que c'était une équipe qui jouait en bloc bas. Donc, évidemment, que ce n'était pas quelque chose qu'on lui demandait. Comme Yann Oblak, il y a 5 ans, si on lui aurait demandé son jeu au pied, tout le monde aurait dit c'est une chèvre, le mec. Faut savoir mettre le bon critère au bon niveau. Maintenant, Beraldo, encore une fois qu'il est mis dans l'axe, je le trouve plutôt rassurant, surtout pour dans les conditions dans lesquelles il est. Normalement, il est là plutôt pour de la rotation. Il joue beaucoup. Surtout, ça fait plus d'un an qu'il enchaîne. Tonton, on en avait parlé. Encore une fois, sa complicité avec Hernandez est intéressante. En top, j'ajoute Ugarte, parce que vraiment, son abattage est toujours très intéressant et surtout, il m'apparaît plus à l'aise tactiquement où il n'était pas à l'ouest sur certains ballons. Et puis, je crois que voilà, on a 3 tops, c'est déjà pas mal. Et puis, flop, évidemment, Kylian Mbappé, ça commence à suffire parce que voilà... à l'envers dans tous les coups, il frappe quand il faut donner, il dribble quand il faut donner, il demande dans les pieds quand il faut partir devant. Vraiment, c'est honnêtement, je pense que c'est une de ses pires prestations sous le maillot parisien. Et puis, j'en ai mis Asensio pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que dans l'intention, et c'était pas du tout ça. Et même, du coup, je pense à un Kangin Lee, parce qu'il rentre très peu. Enfin, il rentre très peu de temps, je veux dire, et il n'a pas d'impact, en fait. Il joue la possession, des petits ballons, petites passes, machin. Donc voilà, on critique souvent Vitinha, mais qu'en est-il de Lee Kong-in, en fait? Évidemment, j'invite pas à ce qu'on presse, mais j'ai l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures pour des joueurs différents, alors que c'est les mêmes actions, les mêmes comportements.
Après, Vitinha était beaucoup plus intéressant, je trouve, l'année dernière, au début de saison, que Kangini n'a pu l'être cette saison.
Mais ce n'est pas le sujet, justement, Milan. Alors, justement, maintenant, j'ai demandé à son avis à Gato, qui sont tes trois tops et tes trois flops du soir.
Écoute, du soir, moi, je vais sur mon ami Gianluigi Donnarumma. J'ai beaucoup critiqué auparavant, mais constater que cette saison, il est très, très, très sérieux et il fait gagner des points au Paris Saint-Germain. Donc, on a encore vu des arrêts. Et de par son attitude aussi, c'est rassurant pour l'avenir. Beraldo, j'ai envie de l'encourager, donc je l'ai mis dans mes tops parce que il y a des difficultés sur les matchs précédents, lorsqu'il a été mis arrière-gauche, mais en défenseur central. Il a eu des problèmes aussi contre le Stade Rennais, un petit peu. Il avait un peu alterné, mais bon, sa prestation aujourd'hui m'a convaincu. Donc j'ai bien aimé. Je vais mettre un top monégasque aussi. Je ne m'attendais pas à ce que Minamino soit si virevoltant. Donc, c'était un gars un peu plus dans la passe et pas forcément si rapide que ça, mais il a fait la différence. Donc, je l'inclus dans mon top du match. Flop du match, très clairement, ça va être Kylian Mbappé pour son attitude. Voilà, c'est un nonchalant sur le terrain. Ce qu'il aussi a fait aujourd'hui, partir dans les tribunes, etc., c'est incompréhensible. À la suite de ça, dans mon flop, je vais mettre Hakimi, parce qu'il n'a pas le droit de se faire appuyer comme ça en première période. Voilà. Après, une fois qu'il récupère le brassard, ça va un petit peu mieux, mais franchement, sa première période, elle est plus qu'il galère. Il faudrait qu'il revienne de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on a besoin de lui. C'est un très bon joueur, donc on a besoin de lui. Et puis, après, je n'ai pas forcément de troisième. Donc, je vais en rester là. C'est juste ces deux-là. Mais après, collectivement. Donc, c'est bon pour mes top et flop.
Mbappé, on tournait dans le stade. Et même dans toute la France, j'ai envie d'ajouter. Mais pour revenir justement au sujet du match de mes top et flop, vu que c'est mon tour, apparemment, vu que tout le monde a déjà parlé. Au niveau de mes top, je ne vais pas être hyper original, mais je vais mettre Gigio Donnarumma. Excellente performance ce soir. On ramène 0 points ce soir, si ce n'est pas lui le gardien, je pense. Plusieurs parades décisives, je pense notamment sur Akiouche, sur Minamino aussi. Et je pense que sans lui, on prend au moins 2 buts en première mi-temps et dans le match tout court. Autre top, j'ai envie de souligner. Alors, il y a du choix. Il y a du choix, j'ai envie de mettre Beraldo, dans le sens où Beraldo commence à prouver que justement dans l'axe, c'est son poste et qu'il peut être une vraie solution à terme. Surtout qu'on connaît Lucas Hernandez et ses blessures très récurrentes. Comme j'aime le dire, on touche du banc en ce qui concerne Lucas Hernandez pour le moment, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et dans ces moments-là, je pense que tu seras bien content d'avoir Beraldo comme remplaçant, surtout quand tu vois les qualités techniques de ce joueur. Il est bon défensivement, mais surtout, ce que demande Lucho, c'est qu'il sache jouer un minimum avec le ballon, contrôle de la poitrine, remise en une touche. Je pense que vraiment, on est plus proche d'un milieu défensif que d'un défenseur, mais c'est tout à notre avantage. Dernier top, pour ce soir, j'ai envie de mettre Manuel Ugarte, pour les raisons que j'avais expliquées précédemment dans le live, un joueur qui a connu une vraie période de difficulté au cours de la saison et qui justement peut-être arrive à retrouver son niveau au meilleur moment. Alors, on a vu bien sûr des meilleurs matchs d'Ugarte, je peux les citer, notamment contre Lens en phase aller, Marseille et Lyon, mais c'était tous les trois des équipes en crise au moment où on les affrontait. Donc, le fait qu'il fasse un bon match dans un match où on a eu beaucoup de difficultés, alors c'est à la fois rassurant et c'est à la fois inquiétant parce que finalement, mes trois tops, c'est tous des joueurs défensifs. J'aurais pu effectivement parler aussi de l'entrée de Nuno Mendes, de Ousmane Dembélé, mais on est limité par 3 tops, et j'ai préféré parler de joueurs qui ont joué 90 minutes pour le coup, et ces joueurs ont été performants. Concernant mes flops, éventuellement, il y a beaucoup de choix aussi. Plutôt obligé de mettre forcément Kylian Mbappé, parce que, comme j'aime bien le dire, tu es obligé d'être plus exigeant avec Kylian Mbappé qu'avec n'importe quel autre joueur, étant donné qu'il est censé être le meilleur joueur de ton effectif. Et ce soir, ça n'a pas été le cas, il a joué à contresens du jeu. Il y a notamment une séquence qui m'a particulièrement agacé, où tu vois qu'il a 1, puis 2, puis 3, puis 4 solutions, et au lieu de ça, il préfère de rester sur place, faire du air dribble sur place, et finalement perdre le ballon, et provoquer un contre de Monaco, qui aurait pu d'ailleurs être très dangereux par la suite. Peut-être parce que ses copains n'étaient pas sur la pelouse ou disponibles pour recevoir le ballon, c'est à savoir, mais dans tous les cas, c'est quand même assez dommageable. En deuxième flop, j'ai envie de mettre forcément Achraf Hakimi, dans le sens où pour moi, c'est un top joueur, et quand tu es un top joueur, tu es censé faire des top performances, et ce soir, Hakimi a eu beaucoup de mal à exister. L'entrée de Ousmane Dembélé lui a fait du bien, on ne va pas se mentir, c'était différent qu'avec Asensio ou Barcola en première mi-temps, mais quand même, j'en attends plus de Achraf Hakimi, et j'estime qu'on va dire qu'il a un peu un passage à vide depuis son retour de la CAN. Mais bon, la Ligue des Champions, ça reprend dans 3 jours, 4 jours. J'espère qu'il sera prêt au bon moment. En dernier flop, justement, Là encore, il y a du choix, justement. Il y a du choix entre notre ami Carlos Soler, qui nous a fait une belle prestation, comment dire, copperfieldienne, hein, depuis la sortie de Marco Asensio. Il a réussi à disparaître au milieu de 30 000 personnes, et c'est assez incroyable quand on voit le nombre de personnes qui étaient sur la pelouse. Personne n'a vu Carlos Soler sur ce match, et c'est assez triste. Je peux faire à peu près le même constat avec Lee Kang-in, qui finalement, en tant que Fantomas, remplace un Fantomas sur le terrain. Donc finalement, je trouve qu'il n'y a pas eu trop de différence de changement entre les deux profils de joueurs, et c'est un peu dommage. Et en autre flop que j'aurais pu mettre, il y a Randal Kolo Muani aussi, dont la rentrée, comme je disais précédemment, s'apparente plus à celle d'un milieu récupérateur très féroce plutôt qu'à celle d'un attaquant. Il récupère beaucoup de ballons, il est bon au duel physique, pas de problème, mais finalement, dans ce qu'on attend de lui, pas grand-chose. Donc, mon choix se divise entre les trois, et si je devais être plus dur envers l'un, je dirais Carlos Soler, dans le sens où Carlos Soler avait quand même montré des bonnes choses au poste de défenseur droit depuis le début de la saison. Et là, en fait, il jouait à son poste dans les bonnes dispositions, dans le style de jeu de Luis Enrique et non pas dans celui de Galtier. Donc, il pouvait justement être dans les meilleures dispositions. Et finalement, ça n'a malheureusement pas été le cas. Donc, ouais, j'imagine que c'est normal. C'est peut-être lié au fait que hier, c'était le 29 février. Carlos était peut-être un peu déstabilisé. Mais oui, non, ce n'était clairement pas son match. Et j'attends d'autres matchs de lui. Je ne condamne pas définitivement. Mais ça me paraît compliqué pour lui en ce moment quand même, on ne va pas se mentir. Et quand je dis en ce moment, ça fait quand même 15 mois. Je vois que tu avais levé le doigt, RG. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose.
Non, déjà, c'était juste pour te corriger. Déjà, c'est un ailier de base.
C'est ça.
Solaire.
Non, c'est un milieu. C'est un milieu offensif.
À Valence,
il jouait 10.
Ah non, à Valence, il a surtout joué à milieu offensif. Mais après, si tu veux qu'il soit ailier, c'est pas un ailier d'inhibiteur en tout cas.
J'ai oublié un flop très important, comme l'a dit Soura, c'est le fameux valet du dictateur, c'est Hakim. Parce que ses prestations.
Arrêtez ces surnoms, sinon
les non,
ses prestations. On ne parle pas de Voldemort, vous avez le droit de dire les noms.
Oui, mais parce qu'il faut bien lui donner des sous-noms au bout d'un moment, parce que Mbappé, ça suffit. Mais Hakimi, ça commence à bien faire, parce que ça fait 2 ans qu'on nous donne des excuses, etc. Dans les matchs importants, souvent. Ça fait ça, un saut de la foi dans la botte de foin d'Assassin's Creed. Mais en fait, aujourd'hui, il était à contre-temps dans tout. Dans les relances, c'est très compliqué. Souvent, quand on allait chercher très haut dans le pressing, lui montait très haut, c'était Ugarte qui devait compenser. Et du coup, devant, c'était Ramos qui redescendait. Enfin, c'est n'importe quoi. Après, pour le coup, il fait aussi un très bon retour en première période en défense, ou sinon, c'est but. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Et pardon, dernière chose, c'est sur Beraldo. Effectivement, à gauche, c'est beaucoup plus compliqué, mais j'ai l'impression que c'est arrivé pour beaucoup de défenseurs, notamment au PSG, les défenseurs qui sont assez lourds, qui sont grands et qui sont placés sur le côté. Je pense à Skriniar, du coup, qui était à droite. Et je pense aussi à Sergio Ramos, l'année dernière, qui était à droite et non pas dans l'axe. Ça fait 3 défenseurs qui ont un profil un peu similaire et qui étaient en difficulté. Je pense que c'est pas anodin non plus.
Alors, c'est pas anodin, ça c'est la phrase de quelqu'un qui a mal fini. Donc à ta place, j'emploierai pas trop ces termes. Mais justement, je me permets maintenant qu'on a abordé les sujets principaux et les top et flop, d'aborder les sujets que je trouve intéressants qui ont été abordés dans le chat. Et forcément, il y en a un où tout le monde se demande si on allait en parler ou non. Hein. Est-ce qu'on a le droit même de prononcer son nom? On n'est pas dans Harry Potter et on a le droit d'en parler. Est-ce qu'on a le droit de parler de la sortie d'Mbappé, de l'attitude qui s'ensuit? Et je vais faire un petit tour des caméras. Et cette fois, c'est Gâteau qui va commencer justement. Qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de Mbappé et ce qui s'ensuit? Eh bien, Gâteau a préféré ne pas parler, ou alors il a été peut-être sanctionné, on ne sait jamais. Soura, c'est à ton tour, on va voir si tu sautes ou pas. Oh, c'est fou! Oh, il devait... Non, c'était une bonne vanne. Vas-y, Soura, t'as le droit de donner ton avis. Non, c'était une excellente vanne, ceci dit. Mais vas-y, Soura, je te laisse donner ton avis. Ah non, quoique, attends, Gâteau est revenu, donc vas-y, on va refaire ordre des caméras. Vas-y, Gâteau, qu'est-ce que t'as pensé de la sortie d'Mbappé et de ce qui s'en est suivi?
Non, c'est inadmissible. Moi, je l'ai déjà dit, je veux que tu parles du club, que sa maman aussi, que son père aussi, que son petit frère aussi. C'est insupportable de voir ça. Non seulement le match n'est pas bon, mais en plus sa sortie. Pourquoi aller en tribune? Pour faire quoi? Oui, t'es à Monaco, là où on t'a formé, etc. Mais ça, tu fais ça après. Tu fais ça après. Il n'y a personne qui fait ça, qui va directement en tribune. Ou les gens qui ont quitté les matchs sont partis directement, c'est parce qu'il y avait des gros scandales ou des rouges, ou comme Franck Ribéry en 2010, je ne sais quand, contre, je sais pas, en Champions League, là. Là, c'est pas possible. Comment on peut accepter ça? Là, c'est indéfendable. Et j'ai vu pas mal de personnes là sur Twitter ou autre se dire, ah ben en fin de compte, on s'est rendu compte que maintenant de tous les méfaits de cet homme. Ça entache son passage au Paris Saint-Germain. Tous ces petits épisodes font que cet homme n'est pas une légende de ce club. Alors que ça aurait bien pu s'il avait juste un comportement ne serait-ce que normal. Normal, hein. Donc avec des bons et des mauvais moments, pardon. Mais là, c'est pas possible. Comment tu sors comme ça? Tu vas en tribune. Pourquoi faire? On ne sait pas s'il est blessé, pas blessé. Voilà. Maintenant, il est président de la fédération. Il est copain avec Emmanuel Macron. Fait des dîners par-ci, par-là. Moi, j'en peux plus de cet homme. J'ai déjà dit. C'est un formidable joueur de football. Il faut qu'il commence. Il faut vraiment qu'il respecte le club et qu'il soigne sa sortie. Et malheureusement, c'est déjà fortement taché.
Ah mais ça va être visu, hein. Moi,
Merci,
je
merci.
vais être très cash. Je vais être très cash par rapport à Kylian Mbappé. Pour moi, il doit plus jouer. C'est terminé. Pour moi, il doit finir toute la saison en tribune. La semaine prochaine, il ne doit pas jouer. Pas une minute, plus rien. Pour moi, Kylian Mbappé, c'est terminé. Il est en train d'entacher la légende qu'il aurait pu avoir au Paris Saint-Germain. C'est un personnage qui devient détestable aux yeux des supporters du PSG. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est inadmissible envers ton institution et envers le club qui t'a accueilli à bras ouverts et qui a tout fait pour te mettre dans des conditions idylliques pour que tu puisses enfin ramener la Ligue des Champions. On a tout fait pour Kylian Mbappé, tout. On lui a donné tout l'argent qu'il voulait. On lui a donné ses amis. On lui a donné un mercato. On lui a donné un directeur sportif. On lui a donné un directeur de la communication. On lui a donné un grand entraîneur. Aujourd'hui, on en a un. On pourra en débattre ou non. On lui a tout donné. Aujourd'hui, il pisse à l'arrêt du Paris Saint-Germain. Il ne respecte pas l'institution. Eh bien, il n'y a pas de souci. Pour moi, Kylian Mbappé n'a plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Déjà, ça, c'est clair et net. Il ne doit pas prolonger. La deuxième chose, c'est terminé. Ce joueur ne doit plus jouer. Il doit être banni de l'entrée. Il s'entraîne, pas de souci. Tu t'entraînes au campus Paris Saint-Germain. Il est magnifique, il est tout neuf. Mais pour moi, il ne doit plus jouer. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, si c'est un Neymar ou si c'est un Verratti qui le fait, il se fait massacrer sur la place publique. Il se fait détruire sur la place publique. Et Kylian Mbappé, ce n'est pas la première fois. Il y a eu le pivot gang, il y a eu la lettre, il y a eu le fait que si je voulais gagner la Ligue des Champions, je ne serais pas resté au PSG. Il y a eu, je serais le premier supporter du Real Madrid. Il y a eu les responsabilités. Aujourd'hui, il est néfaste pour le club. Et avec Kylian Mbappé, l'institution parisienne n'est pas respectée et n'est pas mise en valeur. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est inadmissible. Comment un joueur qui a été remplacé à la mi-temps se permet d'aller en tribune, de faire des selfies, de parler avec les supporters? Et les supporters, ils sont bien marrants, les supporters. Qu'est-ce qui se passe à les supporters du club? Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous ne huez pas un joueur qui ne vous respecte pas à longueur de temps? Au bout d'un moment, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Parce que c'est bien beau de jouer les fumigènes devant la buvette du Parc des Princes. Mais derrière, quand on voit ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, là, il faut se poser des questions. Il faut un petit peu remettre en cause son statut. Neymar a été hué. Neymar a été insulté. Neymar a été insulté devant, c'est lui, sa propriété. Verratti a été insulté. Des joueurs comme Thiago Silva aussi ont été insultés. Kylian Mbappé, il ne mérite pas d'être hué après tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Il ne mérite pas. Et Nasser El Khelaïfi, aujourd'hui, cette personne-là, ce président-là, est l'instigateur de tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui. Et ce n'est pas normal qu'un joueur au Real Madrid, à Liverpool, même à Manchester United, Kylian Mbappé fait ça, il est résilié à la minute. Cristiano Ronaldo a été résilié.
Alors,
Au Real
il a été
Madrid,
vendu. Il a été
il a
vendu
été
à la
vendu.
différence.
Il a été vendu. Cristiano Ronaldo, au Real Madrid, tu fais n'importe quoi. On dirait qu'on te regarde droit dans les yeux. Tu refais la prochaine fois. C'est terminé. On trouve un nouveau club au Paris Saint-Germain. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je comprends pas. C'est pas grave. C'est pas un problème de voir Kylian Mbappé marcher sur l'institution du Paris Saint-Germain. Moi, pour moi, c'est terminé ce jour-là. Aujourd'hui, la légende, elle est morte. Elle est morte. Il part libre et aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de faire à chaque fois, c'est de pire en pire. Donc là, pour le moment, pour moi, Kylian Mbappé ne doit plus jouer au Paris Saint-Germain. Et si on doit en terminer comme ça, eh ben tant pis pour lui. Mais cette personne est toxique pour le club et il faut s'en débarrasser le plus vite possible.
Et je change ma compo, je fais passer Milan et RG en plus offensif. Milan, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Est-ce que j'ai vraiment encore quelque chose à dire après ce que vient de dire Soura? Non, je crois pas. Je pense que je suis totalement d'accord avec lui. Franchement, Kylian Mbappé, ça devient énervant, quoi. Tu te dis que. Est-ce que vraiment, quand je vois ce que le traitement qu'a eu Neymar, et qu'il a encore aujourd'hui, bon, même s'il y a encore des frasques, mais alors qu'il nous empoche 90 millions dans la poche, aujourd'hui Mbappé, 0 millions, il se permet de. Oui, plus, mais il permet. Enfin, franchement, ce qu'il se permet de faire au Paris Saint-Germain, c'est honteux. C'est honteux. C'est quand même, comme il l'a dit au début, il vient ici pour sa première étape. Selon lui, il essaye de grandir avec le club. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il est au-dessus du club. Quand tu vois, il a dit ouais, c'est pas le Mbappé Saint-Germain, bah ça commence à le devenir. Il a l'impression qu'il est au-dessus de tout le monde. Je suis désolé, franchement, Kylian Mbappé, moi, ça m'énerve. Quand tu vois sur le terrain, il donne aucune envie. Parce qu'à la limite, il ferait ça, il serait parfait sur le terrain. Au niveau de l'envie, il ferait tout pour le club. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il a rien apporté au Paris Saint-Germain, mis à part des buts. Le joueur qui nous a emmené en finale, c'est Neymar. Même s'il y a des très bons joueurs.
Il était tout seul, tiens.
Non, est-ce que Mbappé a été ultra important dans la quête à la finale?
Il fait l'entrée face à l'Atalanta Bergame. Et son entrée change des choses. Okay. Neymar,
il est aussi misérable que Neymar.
Neymar n'a pas l'instituteur. Qui est le plus important?
Non, mais franchement, moi je suis désolé, mais Mbappé. Mbappé n'a pas été très. Moi je suis désolé cette saison, encore une fois, je le dis, Mbappé, tu lui enlèves les buts. Il y a quoi cette saison? Vraiment, il y a quoi? Sur le terrain, sur l'envie, c'est juste des buts, ok, peut-être, mais il n'est pas dans les moments importants.
Est-ce qu'il, quand il est. Le meilleur buteur.
Ouais, bah excuse-moi, mais je suis désolé, mais moi Mbappé, franchement, ça m'énerve. Quand je me dis que j'ai genre mes 5 premiers maillots domicile du Paris Saint-Germain, j'en avoir 5 avec floqué Kylian Mbappé, parce que au moment où je les floque, c'était
ton dos, c'est ton argent.
C'était pour moi, c'était un joueur exceptionnel. Aujourd'hui, je ne pourrais pas floquer un maillot Kylian Mbappé. Pour moi, c'est horrible. Franchement, ce qu'il fait au Paris Saint-Germain, les gars, quand tu dis qu'aujourd'hui,
c'est foutu.
Ouais, c'est ça. Et franchement, non, c'est dégueulasse. J'ai hâte de voir comment il va partir, de voir comment il va remercier le Paris Saint-Germain, s'il le fait. Mais franchement, non, je suis totalement d'accord avec Soura et ce qu'avec Gâteau. Franchement, c'est horrible. Faut qu'il s'en aille. Faut vraiment qu'il s'en aille. J'ai l'impression que, ouais, c'est ce que, en fait, c'est oui. De toute façon, il s'en va, mais collectivement. T'as l'impression qu'il n'est pas présent, il joue que pour lui. Et tu sens qu'il y a des joueurs qui jouent que pour lui aussi. Hakimi, quand tu vois, il y a des moments, mon gars, t'as des joueurs qui partent, t'as des Ramos, t'as des. Même au début de la saison, Ramos, il faisait des appels de balles. Il préférait se compliquer la tâche à vouloir la jouer avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il tente des frappes ou des dribbles qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien, mis à part se mettre en confiance lui. Mais Kylian, tu peux pas faire ça. Mais bon. Après,
un grand fan de ski, mais pour revenir sur la piste et éviter les hors-pistes et blessures inutiles dans la poudreuse, je propose à Hergé de se recentrer sur le sujet qui reste ce soir et non pas qu'est-ce qui a été fait durant les 7 années de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. T'as pensé quoi de l'attitude de Mbappé ce soir pour clôturer le sujet, Hergé?
Non, franchement, c'est désastreux. En fait, qu'est-ce que tu veux dire de plus que ce qu'a dit Soura et ce qu'ont dit Soura et Milan? En fait, j'ai jamais vu ça. Si tu jamais vu vraiment, même Ronaldo, ce qu'il fait après son clash avec Eric Ten Hag, on n'en est pas à ce niveau-là. Et pourtant, c'est très critiquable ce qu'il fait Ronaldo. Gâteau qui est là et supporter de Manchester peut en parler. Mais là, non, on atteint un niveau, mais c'est du foutage de gueule. Mais là, s'il n'y a pas d'amende, s'il n'y a pas de rétrogradation en équipe réserve, comme il y a eu pour Rabiot il y a 4 ans de ça, et c'est le même cas de figure. Il part libre, il y a une refus de prolongation, il y a un foutage de gueule, et il y a un conflit qui est tout le temps et qui est public. Et ça, c'est inadmissible. Il y en a eu plein, hein, des joueurs qui ont refusé de prolonger.
Je crois que les amendes, c'est interdit en France. Quoi.
De quoi?
Je crois que les sanctions financières, c'est interdit en France.
Les sanctions financières, mais je pense que tu peux le contourner, comme beaucoup de choses, surtout dans un contrat que... Comme
ça ne sera pas fait à Mbappé, t'inquiète, il touchera son argent jusqu'au dernier centime. Tu le connais mal si tu penses la même.
J'espère en tout cas pour le Paris Saint-Germain qu'ils ont des assez bons avocats pour se mettre des petites clauses pour pouvoir se protéger un petit peu. mais j'ai pas l'impression que ça a été le cas. Maintenant, là, il y a, moi, ce que je vois en ce moment sur Twitter, c'est pourquoi Luis Enrique il fait ça maintenant. Mais moi, j'ai la réponse. C'est parce que depuis six mois, on a le doute de, on se dit, ok, on va peut-être le garder, on va lui donner toutes les raisons pour qu'il reste. Du coup, il va jamais sortir, il va faire ce qu'il veut, on va le mettre dans le rôle qu'il faut. Et même à la fin, il s'est dit, bon, toi, tu vas en pointe, t'arrêtes de me casser la tête, tu joues. Et en plus, il n'était pas bon, et c'était face à Reims où il claque un triplé. Enrique dit, ouais, mais il n'a pas fait un bon match. Et déjà, ça, c'était très étonnant. Et là, maintenant que c'est définitif, il ne reste pas. Il a dit, tu ne restes pas, bah, je te traite comme n'importe quel joueur. T'es pas bon, merci, au revoir. Si un Kolo Muani, il fait la prestation qu'il fait, mais à la 25e minute, c'est dehors. En fait, si mais un Neymar, il fait la prestation qu'il fait, mais mon Dieu, ce qui se prend. Je compare à Neymar parce que tout le temps, c'est Neymar qui revient. Ouais, Neymar, une mauvaise attitude. Oui, mais la même chose.
C'est pas le sujet.
Non, non, mais on compare sujet. Parce qu'il faut savoir.
Non, faut arrêter les comparaisons de lui, il est mieux que lui. On parle d'Mbappé. J'ai pas demandé de parler de Neymar, j'ai pas demandé de parler de Messi, j'ai pas parlé de Verratti, ni de Zlatan. On parle d'Mbappé. Sujet.
Donc maintenant, Mbappé, et pareil, dernière chose, j'attends la réaction du CUP. On va voir s'ils attendent encore d'avoir plus d'informations sur le sujet, s'ils vont approfondir l'enquête, je ne sais quoi. On va voir leur réaction maintenant.
Alors justement, pour clôturer définitivement ce sujet et donner mon avis sur la question, pour parler de Kylian Mbappé, moi, de ce que je sais, hein, si tu es blessé ou pas, s'il avait été blessé, soit tu pars en soins, soit tu restes sur le banc et tu te fais soigner comme font beaucoup de joueurs, soit tu vas à l'hôpital éventuellement si c'est quelque chose de grave. Et si tu n'es pas blessé et que dans ce cas tu sors juste, bah, tu ne vas pas prendre ta douche pour prendre ton meilleur streetwear et sortir derrière, faire la parade, faire des selfies avec maman en tribune, faire la grande tournée des adieux et dire au revoir à toute la France, parce que tu comprends. Et après, Kylian, il ne sera plus là, on ne pourra plus en profiter. Quoi. Il faut bien qu'il fasse son jubilé tous les week-ends. Un moment, stop. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de caméras par rapport à sa série qui sort en fin de saison. Tu as déjà eu la parole et je te l'ai laissé 30 minutes. Laisse-moi finir sur le sujet. Mais non, voilà. Moi, je pense que l'attitude, elle n'est pas acceptable. Et que justement, alors, je ne vais pas rentrer dans le truc de Kylian doit finir la saison en réserve parce qu'on sait très bien qu'avec un joueur de son calibre, c'est pas possible. On ne parle pas de Kurzawa ni de Hugo Ekitike. Donc, je pense qu'il va continuer à être dans le groupe. En revanche, pour rester sur quelque chose de plus réaliste, bah, peut-être à lui apprendre peut-être un rôle de super sub sur certains matchs où on ne serait pas obligé de faire jouer 90 minutes tous les matchs pour qu'il ait ses stats avant tout et qu'il puisse partir en disant « Moi, j'ai fait mon taf, j'ai mis 40 buts en fin de saison. » Tout simplement. Tu voulais rajouter quelque chose, Hergé ?
Donc, Enrique, au micro de RMC Sport, expliquer ma gestion de Kylian Mbappé. Je ne vais pas entrer dans ce jeu, je suis un professionnel et ce que j'ai dit à vos collègues, c'est que je vais répéter jusqu'à la Real Sociedad. Il n'y a aucun problème, c'est simplement gérer une situation de la meilleure manière, de la façon que je pense être la meilleure, rien d'autre. Il y a une autre déclat.
Oh, ça t'inquiète, on aura le temps de revenir sur les déclats. Ouais. Mais moi, maintenant, je vais me permettre de tacler un peu plus fort. Comment ça, on est 541 live et je vois 130 likes. On va mettre cette image en gros, là, histoire de vous calmer, là, et je vais attendre que les likes y montent un peu avant de reprendre l'émission. Allez, bougez-vous un peu, là, j'attends. Et oui, il n'y a pas de Paris United qui sait faire cette manœuvre fourbe. Bon, allez, maintenant, on peut revenir justement sur les commentaires, vu que vous êtes plutôt sympa et que j'ai évité de refaire cette séquence. Je compte sur vous pour éviter de la remettre à l'écran. La deuxième, justement, une question qui est assez intéressante. On dit que Mota aurait dû être coach de cette équipe. Alors, moi, en ce qui me concerne, je pense que ça peut être le coach après Luis Enrique, une fois que Luis Enrique a un peu fait le tri dans tout ça. Mais je pense qu'actuellement, tu dois laisser à Luis Enrique le temps de rebâtir l'équipe. Et une fois que ce sera fait, je pense que oui, Thiago Motta peut être un successeur super intéressant pour Luis Enrique. Alors maintenant, je vais poser d'autres questions aux membres de l'équipe qui participent.
Juste pour réagir par rapport à Motta, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que pour moi, Luis Enrique devrait avoir le rôle un peu similaire à ce qu'a eu José Mourinho pour le Real Madrid. Essayer de consolider des bases très solides pour le Paris Saint-Germain pour que derrière, des entraîneurs...
Un héritage,
ouais. Ouais, c'est un héritage pour que derrière tu puisses avoir le matériel et les ressources pour pouvoir continuer derrière et pouvoir continuer sur les chaussons de l'entraîneur qui est passé derrière. Parce qu'un Thiago Motta aujourd'hui, dans un tel contexte, je ne sais pas s'il aurait pu gérer cette situation-là. Luis Enrique, lui, il a eu l'habitude d'avoir des joueurs à fort caractère et avec un énorme ego surdimensionné. un Thiago Motta qui est à Bologne et qui a des joueurs comme Joshua Zirkzee, avec tout le respect que j'ai pour eux, je pense que pour lui, c'est mieux de continuer sur un bon mood et un bon parcours avec la Bologne, et pourquoi pas de revenir ouais, dans 3-4 ans avec un effectif qui aura totalement changé et qui n'aura pas de dictateur en sa présence.
Vaid coach, pourquoi pas? On n'est plus en 2004, non merci Rames. Justement, question suivante, je vais la poser aux personnes présentes sur le plateau. Hergé, tu penses quoi de Hakimi? Est-ce que pour toi, il doit continuer à tirer les coups francs ou non? Et sinon, tu mets qui à sa place? Parce que là, ça va être intéressant aussi.
T'as mis ta réponse dans la question. C'est lui qui doit être le tireur, parce qu'il n'y a aucun autre tireur. Je crois qu'il y a un moment, c'est Dembélé qui en tire un très proche de la surface et qui met dans le mur, je crois. Non, je pense que c'est le seul bon tireur et il l'a prouvé plusieurs fois. Il en met 3-4 de très loin. Donc, je pense qu'il doit continuer, juste remettre au travail, se remettre en confiance. Et je pense que ça ira, tout simplement.
Qu'est-ce que tu penses, toi, Milan, de tout ça?
Bah, je suis d'accord en fait avec Hergé. Qui veux mettre en tireur? Je vois Vitinha, pourquoi pas. Je me vois quelques belles petites frappes à Porto, mais à Paris Saint-Germain, il y en a aussi des belles, mais même sur ce match-là, tu sens que c'est des fois ça part. Après, bon, bah Vitinha, pourquoi pas le tenter, mais il faut voir à l'entraînement aussi. C'est pas que nous, on peut pas en discuter. Hakimi est bon, mais tu sens que voilà. En fait, le problème, c'est que dans chaque équipe en Europe, généralement, t'as un très bon tireur de coups francs. Paris Saint-Germain, bah, il n'y en a pas. Cette saison, on n'a pas. T'as pas le top joueur qui vient te claquer un coup franc par-ci, un coup franc par-là. T'avais Messi avant qui arrivait à en mettre de temps en temps. Le très bon coup franc qu'on se rappelle, c'est celui contre Lille qui il va chercher 3 points. Mais après, bon, bah, moi, le dernier grand tireur de coup franc que j'ai vu au Paris Saint-Germain, pour moi, c'était Zlatan. Neymar a été un très bon, mais tu le voyais même, je trouve, moins bon que Zlatan, je trouve, sur les années PSG, on va dire. Mais sinon, ouais, aujourd'hui, Hakimi, pour moi, c'est le meilleur. Qui veux-tu mettre? Et Asensio en a tiré quelques-uns, mais encore une fois, il faut voir aussi, parce que tu regardes les coups de pied arrêtés, en fait. Qui tire les coups de pied arrêtés? Même sur les coups, sur les corners, on joue à deux. Généralement, bon, Vitinha, il tire dedans, mais. Ouais, Di Maria aussi, on a mis aussi. Ouais.
C'est pas aussi, ouais. Pour moi, c'est
ouais.
Di Maria.
Ouais. Di Maria au-dessus de Zlatan, bon, ok.
Mais je vais parler de ton Final 8 là, avec ton
oui,
Neymar. Là, c'est Di Maria qui fait
exactement.
Des
points intéressants. Ouais, là, par contre, je suis totalement
qui
d'accord.
En met le plus de... Qui en met le plus?
Oula, c'est, ouais, c'est Di Maria,
je pense. Débat, il me semble que c'est Neymar, quand même.
Ah ouais,
bon, à vérifier, c'est à vérifier, mais je pense plutôt que c'est Di Maria.
Il en met 5-6, quand même. Des directs, hein.
Il y en a quelqu'un un contre le Barça. Non, franchement, non, tu veux mettre qui d'autre? Franchement, ouais, tu veux mettre qui d'autre?
Ça, alors, question suivante, justement, et celle-là, elle sera pour Gato et Soura, vu que j'ai laissé la parole précédente à Hergé et à Milan. Justement, on nous parle d'une équipe de jeunes, oui, mais pas tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars?
Bah, c'est pas super clair comme question, mais.
Est-ce que pour toi, c'est vraiment une équipe jeune en reconstruction ou est-ce que bah, pas vraiment, c'est une équipe plutôt mixte, une équipe plutôt vieillissante?
Non, c'est pas une équipe mixte, c'est une équipe qui est assez jeune parce que jeune en termes d'âge, t'as peu de trentenaires, jeune en termes d'expérience, t'as pas beaucoup de personnes qui ont joué régulièrement à la Ligue des Champions tous les ans, jeune en termes d'âge dans le club, t'as beaucoup de personnes qui sont arrivées l'été dernier ou l'été d'avant. Et puis...
Un petit bug.
Julien Mbappé encore.
Vas-y,
ouais, non, en vrai de vrai, par rapport à cette équipe-là, il n'y a pas forcément d'entre-deux ou même de nuances à apporter. Parce que si jamais, si admettons que tu enlèves Kylian Mbappé et Marquinhos, les joueurs les plus expérimentés, et Dembélé, allez, pourquoi pas. Et tu as Lucas Hernandez, tu as Ousmane Dembélé, et derrière, c'est Donnarumma et Hakimi. Donc, pour le coup, dans les anciens du Paris Saint-Germain, et c'est peut-être pas pour rien. C'est pas pour rien non plus qu'Hakimi a le brassard, parce que je pense qu'il a fonctionné en fonction de la longévité de ceux qui étaient au Paris Saint-Germain depuis le plus longtemps. Il a tranché entre Donnarumma et Hakimi, il a choisi Hakimi. C'est une équipe très jeune, et si jamais tu décides de te séparer déjà et de Mbappé, ça s'est déjà acté, et que du jour au lendemain, Marquinhos venait à quitter le Paris Saint-Germain, bah, les joueurs d'expérience, tu n'en auras pas énormément au club de la capitale, et si jamais tu renforces ton effectif, à moins que tu prennes un Bernardo Silva qui peut apporter cette expérience indéniable au club, j'ai pas forcément l'impression que les prochaines recrues auront vraiment ce leadership que pouvait incarner un Thiago Silva ou un Zlatan Ibrahimovic dans les années antérieures au Paris Saint-Germain. Donc, pour le coup, en termes de réel leader ou même de joueur avec de l'expérience, t'en as pas énormément dans cette équipe-là. Et c'est là que leur rôle va être prépondérant pour les saisons à venir au Paris Saint-Germain. Déjà, est-ce que certains leaders vont réussir à s'affirmer? Ça sera le rôle de Donnarumma. Ça, c'est censé être le rôle d'Hakimi aussi. Et d'autres joueurs, hein, Lucas Hernandez aussi et Dembélé, doivent désormais s'affirmer avec des joueurs assez jeunes. Et on verra si, en fonction des recrues et en fonction des joueurs sur les terrains et en dehors aussi des terrains, un peu comme Danilo Pereira. Danilo Pereira n'est pas forcément un titulaire en puissance dans le club, mais ça reste un leader des vestiaires qui est écouté et qui est respecté. Et donc ça aussi, ça reste quand même important. Et c'est pas pour rien que certains joueurs, même si on peut ne pas comprendre leur utilité sur le terrain, ils ont leur utilité en dehors. Et c'est pour ça qu'ils sont souvent pas vendus, voire même prolongés, mais bon, pas avec des salaires mirobolants. Donc pour moi, il faudra réfléchir à tout ça. Il faut que, de toute façon, le Paris Saint-Germain doit avoir un plan d'ensemble dans la préparation de sa future équipe et de son futur mercato. Et il faut penser à plein de paramètres qui doivent rentrer en compte en ligne de mire pour vraiment être prêt pour la saison prochaine, parce que mine de rien, la saison prochaine, c'est la saison de la fameuse réforme aka la mort du foot.
Alors justement, bientôt, dernière question pour toi de Aurélie. Klopp est libre. Pourquoi ne pas le tenter au Paris Saint-Germain? Soura, c'est à Gâteau que je pose la question. Tu as répondu sans parler.
Parce que Klopp est vieux, parce que Klopp ne voudra pas, et parce que Klopp a dit que sûrement une saison sabbatique. Une année sabbatique, prends sa pause avec Liverpool, tranquillement. Klopp, si tu voulais, il fallait prendre à la... C'est un bâtisseur, il a bâti avec Liverpool, Dortmund, il a fait des choses très intéressantes. Mais c'est pas un numéro 2 dans un projet, c'est vraiment, et à la base, il va jusqu'au bout. Il prend le projet, il fait 100% du projet. Il vient pas à 25%, il vient pas à 75%, il vient pas, voilà, il vient à 0, il vient à moins 1. Donc là, non, Klopp, c'est un très bon entraîneur dans un certain contexte. Et j'ai des doutes que Klopp puisse travailler avec un gars comme Buscampos ou même avec la fiscalité française. Voilà.
Et voilà. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. On a quand même fait une bonne heure de live et je vois qu'on était presque 500 quand même sur ce live. N'hésitez surtout pas à liker avant de partir, à part si vous voulez revoir une certaine image démoniaque ressurgir avant la fin du live. N'hésitez surtout pas à vous abonner aussi si vous êtes nouveau dans l'émission. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci à Gâteau d'avoir été là. Merci à Soura. Merci également à Milan et Hergé qui ont été là pour nous apporter leur bonne humeur. Et merci à toutes les personnes présentes dans le chat qui ont regardé cette émission. Merci à tous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la Ligue des Champions et le débrief de ce Paris Saint-Germain contre le Real Sociedad à l'Anoeta, justement, à San Sebastian. En tout cas, merci à tous d'avoir participé et n'oubliez pas, ici, c'est Paris.
À la prochaine. Bonne soirée.